Place au dossier de Radio Okapi ce soir. Le bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme a organisé la semaine dernière à Kipushi une conférence débat sur la criminalisation de la torture. Les responsables de ce bureau ont fait remarquer à l'occasion que la persistance des actes de torture en RDC fait suite à l'impunité. L'auditeur militaire de la garnison est revenu sur la répression des actes de torture par la justice militaire. Un dossier de Carito Peridassi.
On a noté à ces assises la participation des responsables des FRDC, ceux de la police, de la société civile, des magistrats, des services étatiques, les journalistes, des activistes de droits de l'homme et autres. Cette journée a été instituée par les Nations Unies pour dénoncer les cas de torture et autres traitements inhumains dégradants infligés par les services publics aux tiers. Les officiers du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ont expliqué à l'assistance qu'il existe plusieurs instruments juridiques internationaux qui condamnent la torture, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre. C'est entre autres la Convention universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et autres. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a insisté sur le fait que la persistance de la torture en RDC s'explique du fait de l'impunité, de l'absence d'un état de droit et le manque de la volonté politique. Les défenseurs des droits de l'homme de Kipushi disent être suffisamment outillés et promettent de recentrer leurs actions sur la vulgarisation de la loi 11/008 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture en RDC.
Il y a eu ce qu'on appelle une remise à niveau de nous tous activistes des droits de l'homme. Nous allons beaucoup plus appuyer notre action sur la dénonciation.
L'auditeur supérieur de garnison de Kipushi est lui-même revenu sur la répression des actes de torture par la justice militaire. Quand peut-on parler de torture ? Emmanuel Senga, l'auditeur supérieur de garnison de Kipushi, donne quelques exemples.
À Lubumbashi, ce que nous voyons, la police des circulations routières s'érige en infraction des tortures. Dispute au volant avec les conducteurs, les sortir des forces de son véhicule, prendre les volants et conduire les véhicules pour les ramener à la fourrière. Et il faut voir de quelle manière qu'on retire le conducteur de son volant par des services. Pas des menaces, des fois menottés. Ce sont des actes de torture qui restent impunis. Et je pense que même les auteurs ne sont pas au courant des conséquences des actes qu'ils posent. Outre ces actes, nos éléments de la justice militaire, les APJ, les parquets des droits communs, les éléments de la police nationale congolaise continuent à briller par ces actes infractionnels. Il faut le voir sur terrain lorsqu'ils exécutent des mandats d'amené, des mandats de comparution, même les convocations.
Lubumbashi, Karine Topé, Radio Kapi.
L'invité. Jean Maubert Senga est notre invité ce soir. Ce chercheur sur la République démocratique du Congo pour Amnesty International commente le rapport des experts internationaux sur les Kasaï. Ces experts internationaux accusent les forces de l'ordre et les milices d'avoir commis récemment des crimes graves dans la région. Jean Maubert Senga estime que la justice congolaise doit se saisir de ce dossier. Il est interrogé par Joël Bofengo.
Jean Maubert Senga, bonjour.
Bonjour.
Les experts internationaux ont rendu leur rapport sur la situation au Kasaï. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
C'est un rapport qu'on attendait impatiemment, d'autant plus qu'on a milité avec d'autres organisations pour l'établissement de cette commission d'enquête sur les horreurs qui se sont passées au Kasaï et qui continuent d'ailleurs, il faut le souligner. Nous avons accueilli ce rapport avec... D'une part, on est content que la commission ait pu faire son travail et pu accéder au pays, ce qui n'était pas gagné d'avance. Donc, à cet égard, nous remercions les autorités congolaises d'avoir laissé les experts faire leur travail sans essayer d'entraver ou de les empêcher d'accéder au pays. Et puis, sur le contenu du rapport, il est clair que le rapport confirme tout ce que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et les autres organisations, y compris nous, avons dénoncé depuis le début de ces violences, à savoir que les forces armées de la RDC, armée, police, services de renseignement, mais aussi, dans une certaine mesure, les miliciens Kamuina-Nsapu et Banamura, ont commis des exactions très graves. Nous nous réjouissons de ce rapport, malgré ses faiblesses et son caractère incomplet. Et nous estimons qu'à présent, il faut passer à l'étape de faire rendre compte ceux qui sont responsables à tous les niveaux de ces violences.
Vous avez parlé tout à l'heure des faiblesses de ces rapports. Dites-nous, quelles sont les faiblesses que vous avez relevées dans le rapport?
Il y a des faiblesses qui tiennent d'abord au temps matériel et aux autres contraintes physiques, logistiques que ces experts ont rencontrées pour faire leur travail. Ils avaient un mandat d'un an, mais ils n'ont pu se déployer qu'au mois de décembre l'année dernière. Sur le terrain, dû à plusieurs raisons, y compris la lenteur administrative au sein des Nations Unies. Et donc, ils n'ont pu travailler que pendant 8 mois. Il faut aussi savoir que les violences qu'ils étaient censés documenter se sont étendues sur 5 provinces, qui sont des territoires énormes, souvent sans infrastructure viable et sans moyens de déplacement viable et avec une insécurité qui est toujours d'actualité. Ça, c'est l'une des faiblesses, c'est qu'ils n'ont pas pu documenter tous les incidents graves que nous aurions aimé qu'ils puissent documenter. La deuxième faiblesse se situe au niveau de l'inadéquation entre la gravité et l'ampleur des violences qu'ils ont documentées et les conclusions qu'ils ont formulées. D'une part, ils ont établi que des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont été commis dans cette région par toutes les parties, y compris les forces armées de la RDC. Mais ils ont également pointé du doigt le manque quasi total de sanctions contre les responsables de ces crimes. Et d'autre part, ils formulent des recommandations à l'endroit du gouvernement congolais. Or, il est clair que ce gouvernement n'a pas montré jusqu'à présent de volonté de sanctionner les responsables et surtout à travers la chaîne de commandement des forces de sécurité. Dans le seul procès qui a abouti, celui de Mwanza Lomba, seuls des officiers de petit rang ont été sanctionnés. La Cour et les autorités judiciaires n'ont jamais, jusqu'à présent, voulu interroger la chaîne de commandement pour savoir quel est le niveau le plus élevé des responsables qui ont cautionner ou ne pas sanctionner ou même commanditer ces atrocités.
À Genève, la ministre congolaise des droits humains a déclaré que la majorité des policiers et des militaires qui étaient accusés d'avoir commis des exactions ont été déférés devant la justice et que les autres étaient en train d'être recherchés.
Les violences au Kasaï n'ont pas commencé avant-hier. Les violences au Kasaï ont commencé en 2016. On peut même remonter plus loin. On entend ce discours depuis 2016. Madame Mouchobekwa, elle a dit qu'il y a 3/4 des policiers et de militaires impliqués qui ont été punis. Qui sont-ils? Combien sont-ils? Dans quels incidents? Où sont-ils détenus? Et depuis quand sont-ils détenus? Et qu'attend la justice pour les juger? Peut-être aura-t-elle une réponse. À notre niveau, nous pensons que c'est juste un discours politique qui est destiné à distraire l'opinion publique.
Jean-Maubert Senga, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Okapi Sport. Il est 18h24 à Kinshasa, c'est votre temps. Nana Mbala, bonsoir.
Bonsoir Pascal Masirika, bonsoir mes sportifs.
Au menu de l'actualité sportive, le championnat national de football, il me semble que 20 clubs se rapprochent du titre.
Oui, c'est là après sa victoire cet après-midi sur Sainte-Eulalie-Popo, 3-0 à Lubumbashi. Le buteur de cette équipe se nomme Rudy Makwekwe qui a réussi un doublé à la 45e et 54e minute et Jean-Marc Makoussou, 68e minute. Makoussou voit son compteur de but revu à la hausse avec 24 réalisations. Ce match, nous vous rappelons qu'il a été arrêté près d'une dizaine de minutes après le troisième but de V-Club avant de connaître la fin. Il a fallu l'intervention de la police qui a recouru au gaz lacrymogène pour mettre de l'ordre car le supporter de Lupopo lançait des projectiles sur l'aire de jeu. Florent Binguet, entraîneur de l'équipe de V-Club, nous parle de ces matchs.
La différence entre certaines équipes, c'est que parfois, quand on n'est pas bien dans le jeu, on arrive à débloquer la situation sur les coups de pied arrêtés. C'est ce qui nous est arrivé avec les 2 coups de pied arrêtés aujourd'hui. Et après, on a pu mettre en place notre jeu tranquillement.
Franklin Kimbongila, coach de Lupopo, lui, il justifie cette défaite par le manque de temps de repos de ses joueurs.
On a bien commencé, on a bien joué au football. On a joué samedi, il faut récupérer dimanche pour jouer le lundi, c'est pas facile physiquement pour nos joueurs. Donc là, moi, je comprends par rapport à l'état de la fatigue, par rapport à 48 heures, même pas 48 heures. On doit jouer contre Vita Club qui, tout le monde le sait, il n'a jamais perdu le match, tout le match retour. Il n'a pas perdu, donc voilà, c'était pas facile pour nous, il fallait tenir quand même.
propos recueillis par notre confrère Guillaume Kazadi. Notez que l'équipe de Kinshasa totalise actuellement 53 points, ex aequo avec Mazembe, mais il reste un match avec club ce jeudi contre Dragon Bilima. Le club n'aura besoin que d'un nul, à défaut d'une victoire, pour être sacré champion. L'autre match de ce jour s'est soldé en faveur de Rangers, qui a dominé Don Bosco par 2-0 à Lubumbashi. Hier, nous vous rappelons que le monstre de Dragon Bilima ont chuté devant Sangabalende de Lubumbashi de Mbujimayi sur le score sans appel de 6-0. C'était au stade Kachala Bonzola de Mbujimayi. La suite de ce championnat est pour ce mercredi. Bazano jouera Rangers au stade Kibasa Maliba de Lubumbashi. Emmanuel Maignan croisera Montbleu au stade Joseph Kabila de Kindu. 54e Coupe du Congo de football, sauf changement de dernière minute. La première demi-finale se jouera demain mardi à Kolwezi entre JSK et Tout-Puissant Molungé. Mais le club de Mbandaka, qui traîne encore ici à Kinshasa, prendrait son avion ce même mardi. JSK, qui est déjà sur place à Kolwezi, son entraîneur Papi Kimoto, s'est dit confiant pour le titre.
On va se préparer maintenant en conséquence. On va se préparer en conséquence pour rencontrer Molungé. Maintenant, le prochain tour, l'objectif est d'aller en finale. Ça, c'est clair. Jouer le demi-finale pour aller en finale. Ça, c'est l'objectif principal.
De son côté, FC Renaissance, qui a quitté Kinshasa ce matin pour Kolwezi, le club orange disputera sa demi-finale après-demain contre AS Nyuki. L'équipe de Butembo est à Kolwezi en route pour Likasi, en route pour Kolwezi au moment où nous vous parlons. Nous écoutons Guy Bakila, entraîneur de l'équipe de Butembo.
Bon, il y a étape par étape. Pour le moment, la justice, c'est la demi-finale. Pour jouer la finale, il faut gagner la demi-finale.
Les successeurs de Manier Maignan sera connu le 14 juillet lors de la finale de cette compétition. Et puis en ce qui concerne la Coupe du Monde Russie 2018, elle entame sa dernière phase demain mardi avec les débuts de demi-finale. Il ne reste désormais que 4 rencontres avant la fin de la compétition. France, Belgique, Angleterre et Croatie ont validé leur ticket pour le dernier carré ce week-end à l'issue des quarts bien animés. Le total de réalisations depuis le début du tournoi se porte à 157 en 60 matchs, soit une moyenne de 2,6 buts par match. L'anglais Harry Kane reste le meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 6 réalisations. Demain mardi donc, nous aurons 18h en heure de Kinshasa, la France qui sera face à la Belgique pour la première demi-finale, puis la seconde, ce sera après-demain, donc le mercredi, entre la Croatie et l'Angleterre.
Merci Nanambala pour...
Ce journal est complètement terminé. Avant de rendre l'antenne, je vous rappelle les principales nouvelles. Engouement hier dimanche dans les bureaux de réception et des traitements de candidatures dans la province de la Tchouapa, la Mongala et les Sud-Ubangi à la fin du dépôt des candidatures pour les provinciales. À Lubumbashi, par contre, sur une quinzaine de dossiers déposés à la CENI, aucun n'est jusque-là déclaré complet ni conforme. Suspension de la pêche dans la partie nord du lac Édouard, décision prise par les autorités du Nord Kivu suite à la disparition de 20 pêcheurs après un accrochage entre les forces, la force navale et des marins ougandais entre Kassindi et Semuliki. Le chercheur sur la RDC pour Amnesty International demande à la justice congolaise de punir les auteurs des crimes de guerre et crimes contre l'humanité survenus récemment dans le Kasaï. Jean-Maubert Senga a commenté dans ce journal le rapport des experts internationaux sur la région du Kasaï. Fin de cette édition. Merci d'avoir écouté.